Merci, Amish. C'est toujours impressionnant quand on prie pour soi avant de démarrer un message. Ça permet de ne pas être familier, c'est très bien. Donc, en cette période de Noël, je ne voudrais pas parler de la naissance de Jésus. Désolé. Je voudrais plutôt parler de l'effet de sa naissance. L'effet de qu'est-ce qui s'est passé, le bouleversement dans les relations humaines à la suite de sa venue. Hein. Ce message, on l'a quand même abordé pas mal aussi tout le trimestre, c'est un message, c'est l'amour, quoi, tout simplement. Et puis, dans cette période, c'est bien de réfléchir à cela. Et Alain en a parlé un peu, William aussi. Qu'est-ce qui fait les relations humaines selon Dieu? Et puis, c'est la joie de Noël aussi. C'est marrant, mais on est ouvert à écouter ce genre de message à cette période. Regardez, même l'humanité athée, elle a la volonté d'être meilleure. Hein ? Par exemple, quand on fait la soirée du cœur, il y a 80 personnes qui viennent servir, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais ils veulent faire quelque chose pour leur prochain. Ils ne le font pas à Pâques, ils ne le font pas l'été, ils le font à Noël. Il y a aussi les films, vous savez, les films un peu feel good, comme on dit là. Hein, genre Love Actually, genre La vie est belle, etc. C'est vrai, chaque année ils repassent, on les regarde et ça nous plaît. Et il y a plein de gens à qui ça plaît et qui n'ont pas de rapport, mais ils sont sensibles, ils peuvent être touchés par Dieu à ce moment-là. Donc, est-ce que vous connaissez la BD Snoopy ? Oui. Donc, Charlie Brown et Lucy, vous savez, ils ont toujours des conversations pas possibles. Et à un moment donné, dans celle que j'ai lue en tout cas, Lucie, elle va demander à Charlie Brown « Pourquoi sommes-nous sur Terre ?» Et oui, des fois, c'est profond. Hein. Il lui répond « Pour rendre les autres heureux. » J'imagine bien Charlie Brown, vous savez, son gant là, de baseball, répondre un truc aussi profond. Et elle réfléchit un moment, et puis elle lui dit « Mais alors, pourquoi les autres, ils sont-ils ? Ils servent à quoi ?» Et je trouve que c'est une bonne réflexion. Donc, on va accompagner cette réflexion et essayer d'y répondre. Donc, je me baserai sur 1 Jean 2, versets 7 à 11, que je vais lire. « Bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. » Si je n'ai pas la même version, bon, ce n'est pas grave, elle se ressent. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau. Ce qui est en vrai est en lui, et vous, et en vous, parce que les ténèbres s'en vont et que la lumière luit déjà. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà. Donc l'apôtre Jean, il n'a pas écrit seulement sur l'amour, mais il le pratique. Son mot préféré dans ses épîtres, c'est « bien-aimé ». Il revient sans arrêt sur ce nom, « bien-aimé ». Et puis, on l'a surnommé « l'apôtre de l'amour ». C'est intéressant parce que Jésus, le surnom qu'il donne à Jean et à son frère, c'est pas ça. C'est les fils du tonnerre. Hein ? Et si vous vous rappelez, dans l'évangile, à un moment donné, il y en a deux qui disent que Jésus fait tomber le feu du ciel pour détruire des villages, enfin un village. Bon, c'est pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apôtre Jean, on peut affirmer que l'action du Saint-Esprit a transformé cet homme. C'est un homme nouveau, choisi par le Seigneur pour parler de ce qui est le plus important dans les relations humaines, l'amour. L'amour de Dieu. J'ai bien aimé la réponse de la petite fille ce matin. C'est la naissance de Dieu. C'est vrai, Amish a dit, je ne m'attendais pas à... Dieu s'est fait homme. C'est ça, Noël. C'est la naissance de Dieu. Voilà. Donc, cet homme, Jean, Dieu a transformé sa vie. Et toute son œuvre, on va dire, c'est sur l'amour. Et ça doit nous parler. Ce qui est vrai pour Jean doit être vrai pour nous. Souvent, on cherche des modèles. C'est bon de prendre l'apôtre Jean comme modèle. Alors, selon ce passage, ce qui est étonnant dans cet amour chrétien, c'est qu'il est ancien et nouveau. Hein, il le dit. L'amour n'est pas nouveau, ni le commandement d'aimer Dieu, hein, ni d'aimer son prochain. Jésus a combiné ces deux principes, hein, d'aimer son, en mélangeant Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Et il dit que c'est, tout ça résume la loi et les prophètes. Hein. Aimez-vous les uns les autres, ça résume tout. Donc, si le Seigneur le dit, si l'apôtre Jean met l'emphase là-dessus, je crois qu'on doit y revenir. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'était des obligations anciennes, bien avant que le Seigneur vienne sur terre. Dans ce sens-là, il n'est pas nouveau. Depuis le Seigneur, l'ancien commandement nous aimer a revêtu un nouveau sens. Et dans ces courts versets, on apprend que c'est nouveau, ce commandement, c'est nouveau à trois points de vue, et c'est ce que je vais vous développer. Alors, premièrement, il est nouveau par l'importance qu'il a, ce commandement. Dans l'Ancien Testament, le commandement d'aimer les autres faisait partie d'un ensemble de préceptes, alors qu'aujourd'hui, ce commandement ancien devient la base. Ce seul commandement, comment il peut dominer tous les autres ? Ben, en Romains, il y a une réponse, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Voilà le fondement. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. En France, par exemple, selon la loi, vous allez voir le parallèle, mais les parents, vous savez, quand on se marie, bon, on a des responsabilités, hein, je ne parle pas à l'Église, je parle d'un point de vue civil, on a des sacrées responsabilités, et souvent, les gens devraient bien écouter ce que dit le maire quand il se marie, parce qu'il y a des sacrés engagements. Bon, les parents, par exemple, selon la loi en France, ils doivent prendre soin de leurs enfants. Hein ? Si vous abandonnez un enfant, c'est un crime. Donc la loi le dit clairement. Mais en même temps, j'imaginais cela, vous verrez, a priori, peu de conversations dans un couple le matin qui se réveille et qui dirait « Chérie, tu devrais vite te lever, préparer le petit déjeuner des enfants, les habiller, les préparer, les habiller, sinon la police risque de nous arrêter. » Il y a quand même un peu de chance. Hein ? Et sa femme lui répondrait « Tu as raison, chérie, c'est une bonne chose d'avoir une loi. Si on restait au lit toute la journée, on les laisserait se débrouiller seuls. » Bon. Ça a pu arriver à chacun de nous, hein. Un dimanche matin ou un samedi matin. Il faut se lever, il faut les habiller. Mais ça dure 5 minutes. Quoi. Voilà. Parce que la loi le dit, mais ce n'est pas la loi qui fait qu'on agisse. Ce n'est pas la crainte de la loi qui soit le motif pour s'occuper de ses enfants. Absolument pas. Les parents s'acquittent de ces responsabilités tout simplement parce qu'ils aiment leurs enfants. Pour bien agir, ce n'est pas une question de loi, mais c'est une question d'amour. Et en fait, c'est exactement cela. Le commandement « aimez-vous les uns les autres », c'est de la même manière l'accomplissement de la loi divine. Si vous aimez quelqu'un, vous ne lui mentez pas, par exemple. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le volez pas. Voilà. Et si vous le volez, ou si vous lui mentez, le Saint-Esprit en vous vous interpellera et vous reviendrez. Des fois, ça prendra un jour, des fois 15 ans, mais vous reviendrez et vous demanderez pardon. C'est comme ça. Je suis désolé, c'est la mauvaise nouvelle. Dieu nous aime et il veut qu'on aime les autres. Et donc, ben, il va agir entre nous afin qu'on guérisse aussi de tout cela. Donc, l'amour de Dieu pour les autres nous incite à obéir. Mais c'est ça qui est chouette, sans qu'on s'en rende compte. On ne se dit pas, oh là là, je dois obéir. Non. Il nous incite à obéir. On sert Dieu, on sert notre prochain, pas par crainte, mais par amour. Amen. Hein ? C'est pourquoi Jean dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement ancien. Ça veut dire qu'on va apprêter quelque chose de différent dans nos relations par ce commandement. Ce n'est plus un ordre parmi tant d'autres. C'est celui situé en tête de liste. Hein ? Il se passe au début de la vie chrétienne. 1 Jean nous dit, c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commencement, ça concerne notre vie chrétienne. Le jour où on a accepté le Seigneur, hein, Vous vous en rappelez quand vous avez accepté le Seigneur ? Hein ? Bon, c'est une bonne nouvelle. Quand on se convertit, puisque vous vous en rappelez, ben on aime tout le monde. Hein. C'est vrai. Hein. Des fois, on se demande même, avec le recul, on se demande si on n'était pas... Vous savez, on est ébahi. Dieu nous aime. Dieu nous aime. On le répète 40 fois. Et puis après, ben on aime tout le monde. Tout le monde est formidable. Moi, je me rappelle, je me suis converti, je suis allé à l'Arche. Tous les gens étaient extraordinaires. Tous, sans exception. Je n'avais pas de filtre de critique. J'aimais tout le monde. Hein. C'est après que ça se gâte. C'est ça qui est dommage. Mais c'est le défi de la vie chrétienne, sinon ce ne serait pas marrant. Je veux dire, on aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, il faut que Dieu travaille notre cœur pour qu'on aime. Il faut que ce soit un fruit. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. Dans la pensée de Dieu, nous aimer, ce n'est pas un rajout à la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas quelque chose où le Seigneur voulait réparer un oubli. Non, pas du tout. Il est placé dans notre cœur, à l'origine de notre foi en Christ. On reçoit cet amour par le Saint-Esprit. Hein. Si ce n'était pas le cas, l'apôtre Jean n'aurait jamais pu écrire « Nous savons, ce verset, il est incroyable, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment ? Parce que nous aimons les frères. » Ce n'est pas anodin. Donc un chrétien qui peut avoir un problème avec un frère, ben, il doit laisser le Seigneur lui parler, je pense. Et rappelez-vous ce que dit le Seigneur en Jean, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Il est connu ce verset, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il ne parle pas aux autres, il parle à chacun de nous. Hein ? Parce que nous, par nature, on est comment ? Selon la parole de Dieu, hein, mais on peut le constater un peu aussi quand même. On peut être un peu égoïste, on peut être malveillant, on peut être moqueur. Vous savez, si on fait l'analogie avec un enfant, un petit enfant, il est formidable. Mais il est quand même égocentrique, il pense quand même qu'à lui. Il faut être honnête. On l'adore, même si on les adore. Cet enfant, c'est l'image de qui, de quoi ? C'est l'image de cette personne qui n'est pas sauvée, tout simplement. Elle ne raisonne que son propre monde. Tite nous dit, il fait la description de l'humanité, « Nous étions tous autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. » C'est un joli portrait, hein, de l'homme. Donc, quand le Saint-Esprit, quand on se convertit, le Saint-Esprit vient habiter en nous et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et ça, c'est ce qui fait que c'est formidable d'être chrétien. Vous avez été instruit par Dieu, par le Saint-Esprit, en vue de quoi ? De l'amour réciproque. C'est important de comprendre l'amour chrétien. C'est important. Hein ? Ce n'est pas une émotion superficielle, sentimentale, hein, qu'on essaierait de susciter en nous-mêmes pour qu'il y ait le plus de paix possible entre nous. Non, ce n'est pas ça. Non, on doit vouloir que l'amour de Dieu touche les autres par notre intermédiaire et leur témoigner de cet amour d'une façon pratique. Hein. Vous savez, quand dans Jacques, il dit si tu vois quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui manque de tout, tu peux dire bon, Dieu s'en occupera. Ou il t'interpelle pour dire peut-être que Dieu, à travers Dieu, c'est toi qui vas t'en occuper. Donc laissons-nous interpeller. C'est tout cela qui va transformer notre cœur. Hein. Donc, ce n'est pas une émotion. On ne doit pas faire comme si nous aimions les gens. On doit agir de telle manière qu'ils montrent qu'on aime les gens. Ce n'est pas la même chose. C'est fondamental. Hein. C'est cela, obéir à Dieu. Hein. J'ai lu 1 Corinthiens 13, vous savez, mais dans une version français courant. Je trouve que ça... Pour cette partie-là, en tout cas, ça dit « La vie chrétienne sans amour, vous savez, si je n'ai l'amour, c'est rien. C'est rien du tout. La vie chrétienne sans amour, c'est rien du tout. » Waouh ! C'est... Hein ? Alors, ce commandement, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau seulement par l'importance. il est nouveau par l'exemple que Jésus en donne. Ça aussi. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Jean nous dit qu'il a été réalisé la première fois en Jésus-Christ. Hein, c'est lui. Et il se réalise dans la vie de ceux qui se confient à lui. Chacun de nous. Mais c'est Jésus le boss là-dessus. C'est l'exemple total, parfait. Hein. Parce que quand on regarde la vie de Jésus, et je vous invite à relire l'évangile dans ce prisme, on voit l'exemple vivant de l'amour. Alors vous le savez, je ne vous apprends rien, mais c'est bien de... Par exemple, lorsqu'il nous demande d'aimer, il ne demande pas de faire une chose qu'il n'aura pas faite lui-même. Vous savez, des fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ben, Jésus, lui, c'est le conseiller et il a payé. Donc, on peut l'écouter. Hein ? C'est important. La vie du Seigneur dans l'Évangile rend témoignage de cet amour. C'est comme si le Seigneur nous dit, moi, j'ai vécu conformément à ce commandement et je vous invite à faire de même, mais surtout, je vous en rends capable. Et c'est pour ça qu'il va dire qu'il est avantageux qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre et qui va nous rendre capables. Et c'est dans ce sens-là. Jésus a illustré l'amour. Il n'a jamais fait preuve de haine, par exemple. Jamais, jamais, jamais. Hein ? Par exemple, on va dire Jean, l'apôtre Jean, quand il s'est énervé avec son frère, c'était une forme de haine. Il voulait que le feu du ciel descende. Jésus n'a jamais fait ça, par exemple. Jamais. Dans ce sens-là, c'est incroyable. Sa justice détestait tout péché, toute désobéissance, hein, on est d'accord. Mais il n'a jamais haï personne. Jamais. Pensez à l'amour du Seigneur pour ses disciples. Vous pensez, c'est Dieu. Vous pensez qu'à des moments, il n'a pas dû être déçu par ses disciples, hein ? Jamais. Par exemple, quand Jacques et Jean, encore, quand ils veulent être à la droite et à la gauche de Dieu, c'est décevant quand même, non ? Ils ont marché avec lui et tout. Puis en plus, c'est sa maman, l'amour d'une maman, qui vient et qui veut faire le deal, quoi. C'est-à-dire, bon, Seigneur, moi, je marche avec toi. Je te finance, si tu veux, mais il faut que mes enfants soient à ma droite. Il n'a rien. Il n'a pas rien. Il a dit autre chose, mais qui n'était jamais méchant ou quoi que ce soit. Hein ? Considérez aussi l'amour du Seigneur pour toutes sortes de gens, les publicains, les pécheurs, les prostituées, étaient attirés par son amour. Hein ? Le rebut de la société venait pleurer à ses pieds et il les accueillait. Et regardez un truc qui est marrant, c'est que les gens de mauvaise vie, on va dire comme on dit, venaient voir Jésus pleinement et tellement plein de repenti. Et à l'inverse, et c'est marrant aussi, on va voir que Nicodème, hein, docteur d'Israël, avide de vie spirituelle, hein, et bien il est venu le voir en secret. Alors les gens de mauvaise vie y allaient pleinement devant les autres, et puis quelqu'un comme cela, paradoxalement, il y est allé en secret. Ça aussi, ça parle. Voilà. Par exemple, 4 000 personnes ont écouté son enseignement, et ils ont reçu un repas miraculeux. Il a tenu des bébés dans ses bras. Il a demandé qu'on laisse venir à lui les enfants. Il a consolé les femmes qui pleuraient quand on le menait au calvaire. Il ne faut pas juste dire « c'est Jésus, c'est normal ». Il faut se dire « quel exemple ?» Quel exemple ? Et c'est ce chemin. Quand Jésus va nous dire « aimez-vous les uns les autres », c'est de ça qu'il parle. Voilà. Et ça doit nous parler à nous aussi. Et le plus fabuleux, c'est la façon dont il s'est conduit envers ses ennemis. Hein ? Quand on est venu l'arrêter, il aurait pu envoyer ses armées célestes, comme on dit. Non, il a accepté de mourir pour ses ennemis, chacun de nous. Sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fou. Oh. Comment dire ? On est familier avec ces trucs. L'évangile, on le connaît par cœur, on l'a lu. Voilà. Non, c'est bouleversant, en fait. C'est bouleversant. Donc Jésus, par sa vie, sa mort, c'est l'exemple parfait de ce commandement. Hein ? Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il est nouveau, ce commandement. Donc, ce qui est vrai pour lui doit devenir vrai pour nous. Hein ? Un Jean, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La barre est haute, hein ? La barre est super haute. Mais si on veut la franchir seul, vous savez, c'est comme un saut. On va se planter. Hein. Aider de Dieu, c'est autre chose. Hein. Donc, on n'a pas à comparer non plus notre amour à celui d'un frère. Hein. C'est-à-dire lui... parce que pourquoi ? Parce qu'on prendrait toujours quelqu'un qu'on jugerait un peu moins bon que nous. Comme ça, c'est confortable. Non. C'est pour ça, gardons Jésus en exemple. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein. C'est Jésus la référence. Cela évitera de l'orgueil sur la beauté, la qualité de notre amour. Hein. Et le passage va continuer la comparaison. Alain, c'est marrant, il en a parlé, entre la lumière et les ténèbres. En marchant dans la lumière, en étant en communion avec Dieu, ben le chrétien sera en communion avec les autres de sa famille, la famille de Dieu. Hein. Parce que l'amour et la lumière marchent ensemble. Les ténèbres marchent avec la haine, l'amour marche avec la lumière. Hein. Parler de l'amour chrétien, il n'y a rien de plus facile, mais le pratiquer, il n'y a rien de plus difficile. Hein. Parce que l'amour ne consiste pas en de vaines paroles, nous dit l'apôtre Jean. C'est une raison pour laquelle, là aussi c'est formidable, le Seigneur a institué l'Église locale, l'Assemblée des chrétiens. Voilà. On ne peut pas rester chrétien tout seul dans son coin. C'est comme ça. Bon, je sais que cette phrase, je la dis souvent, pardon pour la redite, mais j'en suis tellement convaincu. Ouais. Vous savez, le faire aiguise le faire. On a besoin que l'autre... Il faut que quelqu'un nous énerve si on veut savoir qu'on l'aime. Sinon, si on est seul dans son coin, à part nous-mêmes, on ne va pas s'énerver. Non, mais vous voyez, c'est aussi stupide que ça, en fait. Jésus a créé l'Église, voilà, hein, c'est tout. Il a créé l'Église pour ça. Hein. Bien sûr, il y a plein de fois... Non, parfois, on aimerait être seul. Pas plein de fois, je me reprends. Mais on ne peut pas mener une vie chrétienne épanouie complète si on n'est pas en communion avec nos frères. Hein. Et c'est dans l'Église qu'on trouve nos frères. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi se compliquer la vie ? Pourquoi pas faire simple ? Il y a une Église. Si celle-là ne convient pas, ben on en trouve une autre. Ou une autre, peu importe. Mais Jésus nous appelle à venir à l'Église. Hein. La vie chrétienne, c'est quoi ? C'est une relation verticale et horizontale. Bon, c'est la croix, tout ça, très bien. Mais cela rappelle ce verset que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc, chacune de ces relations doit se caractériser par un amour réciproque. On aime Dieu, Dieu nous aime. On aime les autres nous aiment. Ça marche, ça fonctionne. Hein ? Là, j'avais un autre truc, mais... Donc, il est facile de pratiquer un christianisme de parole, de chanter les louanges, d'utiliser le bon vocabulaire chrétien, parce que là-dessus, on est... Bon, enfin, moi, je suis très bon. De prier comme il faut. Hein, c'est toujours bien de se nommer soi-même, comme ça, hein. Personne ne se sent visé. Hein. En se berçant de l'illusion qu'on est spirituel. Parce que ce n'est pas ça, être spirituel. Être spirituel, c'est s'enquérir du besoin de ton frère. Ou de quelqu'un qui n'est pas ton frère. Hein. Vous savez, des fois, on dégage un truc... Je vous raconte ça. Je travaille avec quelqu'un, enfin, depuis peu, là, je travaille avec un jeune. Bon, bref. Et il m'a entendu parler de la soirée du cœur. Vous voyez ? Donc, du 24 au soir, tout ça. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et donc, il m'appelle il y a une semaine. Et il me dit, pourquoi tu ne m'as pas invité ? Moi, j'étais super gêné. Mais j'ai dit, mais attends, c'est... C'est un repas qu'on offre et tout ça. Hein. Ce n'est pas un réveillon. Hein. On ne va pas faire la fête. Tu sais, je voulais qu'il n'y ait pas de malentendu. Il me dit, oui, ben moi, j'aimerais venir, j'aimerais servir. Et résultat, il vient avec sa sœur, sa femme et lui. Bon, c'est... Voilà. On respire l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que n'importe qui. C'est comme ça. Dieu attire les gens à lui. Et par qui ? Par nous. Voilà, c'est aussi basique, aussi simple que cela. Donc, c'est touchant, quoi. Donc, ce que nous disons doit être l'expression de notre être intérieur. Pourquoi en aurions-nous besoin de mots supplémentaires, hein ? Jésus, là, il est génial quand il dit « que ton oui soit oui ». Voilà. Le reste vient du malin. Hein ? Notre oui devrait signifier oui. Notre non, non. Hein ? Si nous disons que nous sommes dans la lumière, ben, le meilleur moyen de le prouver, c'est d'aimer les frères. Ce n'est pas compliqué, hein ? Eh bien, c'est très compliqué. Hein ? Et dans cette période où Dieu est venu dans le monde, ben, on doit réaliser à plus forte raison, on doit réaliser que beaucoup, beaucoup de chrétiens, vous voyez, et ici, dans l'Assemblée, et ailleurs, ils ont un besoin urgent d'être aimés. Ils ont un besoin urgent d'être encouragés, d'être acceptés. Si on pratique cela, chacun, Dieu nous montrera ces personnes qui sont... Ça a été plus ou moins dit là, par rapport à Mich qui a dit que je pense qu'il y a des personnes qui se sentent seules, etc. Si on vit l'amour, on est sensible aux besoins des autres. Si on vit l'amour, et parce qu'on est sensible, toute église, et celle-ci en premier puisqu'on est là, c'est un bouleversement. Un réveil, c'est ça, hein. C'est pas et c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Ben, ils vous reconnaîtront. Ben, si on s'aime, ben, n'importe quelle personne sera touchée. Vous pouvez inviter n'importe qui, hein. Il sera touché. C'est ce que dit la parole de Dieu, et elle ne ment pas. Donc, tout va changer si on pratique cela en chacun. Chacun de nous, premièrement, et dans la vie de l'Église. Et puis, contrairement aussi à l'opinion générale, souvent, on pense que l'amour chrétien, c'est un peu idiot. Hein, vous savez, des fois, on est représenté un peu comme des naïfs, quoi, un peu des idiots. Quoi. Enfin, c'est malheureux. Hein. Un peu aveugle, vous savez, un peu... On est dans la rue, on parle à quelqu'un, prenons Gérard, on dit « Dieu vous aime », etc. Il y a des gens qui sont touchés, puis il y en a d'autres, ils continuent leur chemin en se disant, vous savez, quand vous voulez donner un tract à quelqu'un, vous avez soit le gars qui est comme ça, il prend le tract, soit l'autre, il est là, ouais, allô, ouais. Il ne veut surtout pas nous regarder. Mais voilà, c'est. Je ne sais plus pourquoi je disais cela. Voilà, ouais. Voilà, c'est. Qu'on est un peu idiot. Mais pas trop, quand même. Hein. Faut pas non plus... Mais parce qu'on est... C'est l'amour chrétien qui n'est pas aveugle, contrairement à ce qu'il pense. Hein. Parce que l'amour chrétien, c'est même le contraire. On pratique l'amour chrétien, on trouve que notre vie est de plus en plus lumineuse. Ça a été dit aussi. C'est la haine qui assombrit la vie. C'est la haine. Croire le meilleur, franchement, croire le meilleur... Ce n'est pas être idiot. C'est quand même plus agréable de croire le meilleur. C'est plus reposant de croire le meilleur que de redouter le pire chez l'autre. Non ? Franchement. C'est prendre des risques, certes. Mais les risques, c'est la vie. Hein ? L'amour chrétien, ce n'est pas un sentiment superficiel. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas ce qu'on reçoit, on ressent pendant une belle louange, un beau culte. Non, c'est pratique. Ça se manifeste dans tous les domaines de la vie quotidienne. Je vais vous lire quelques versets du Nouveau Testament. Ça en est clashy dans la parole de Dieu. Usez de prévenance réciproque. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Faites-vous mutuellement bon accueil. Avertissez-vous les uns les autres. Édifiez-vous l'un l'autre. Portez les fardeaux les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Et ça, c'est juste diverser. Hein. Donc, en résumé, aimer les frères, ça veut dire quoi ? C'est les traiter comme Dieu les traite et comme Dieu nous traite. Voilà. Ça, c'est un beau programme et il n'a rien d'idiot, ce programme. Il n'a rien de naïf, au contraire. Il est plein d'espérance et il est très profond. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez un chrétien qui n'aime pas ses frères ? Ben, selon la parole de Dieu, comme j'ai dit plus haut, La première conséquence, c'est quoi ? Ben, il vit dans les ténèbres, tout simplement. Il croit vivre dans la lumière, mais il vit dans les ténèbres. Hein ? J'ai lu cette histoire, et je trouve qu'elle illustre ce propos. Donc je vous la lis. Un homme qui marchait de nuit dans une rue mal éclairée vit une petite lumière vacillante qui s'approchait de lui. Vous savez, la lumière faisait ça. Et il se dit que la personne qui portait, ben, il s'est dit, ben, cet homme, il doit être ivre. Il marche de travers, quoi. Hein ? Mais quand il arrive tout près de cet homme, qu'est-ce qu'il voit ? Cet homme, il a une canne blanche. Alors il est super étonné. Pourquoi un aveugle ? Il a une lampe de poche. Et il va lui demander à l'aveugle. Et l'aveugle sourit, il dit, j'ai une lumière, non pour que je puisse voir, mais pour que les autres puissent me voir. C'est magnifique, hein ? Ce n'est pas ma faute si je suis aveugle, mais je dois quand même faire de mon mieux pour ne pas faire tomber les autres. Je vous laisse méditer. Donc la meilleure façon d'aider les frères à ne pas trébucher, c'est de les aimer. Une autre conséquence à notre manque d'amour, c'est que ça retarde notre progrès. On ne grandit pas. Quel dommage, on ne grandit pas. Un aveugle qui marche dans l'obscurité, il ne peut jamais trouver son chemin. Il ne le voit pas. Hein ? La seule atmosphère favorable à la croissance, c'est une atmosphère de lumière et d'amour. Et dans ce temps-là où on reçoit nos familles, on fait des repas, c'est super sympa, ben, c'est un entraînement, on peut mettre ça en marche. Peut-être plus facilement aujourd'hui. Hein ? La nature a besoin de rayons du soleil, on a besoin d'amour pour grandir. Je vous apprends rien, hein, c'est que des redites. Hein. Voilà. L'ancien commandement devient un nouveau commandement lorsqu'on le met en pratique. Hein. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai considéré le côté négatif de ces versets. Maintenant, le côté positif. Si nous pratiquons l'amour, nous vivrons dans la lumière, en communion avec Dieu et avec nos frères dans la foi. Nous ne trébucherons pas, nous ne serons pas une pierre d'achoppement pour les autres et on grandira spirituellement. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit, vous savez. Le premier fruit que l'esprit produit, c'est l'amour. Mais l'amour ne vient jamais sans la joie. C'est intéressant. Le manque de pardon nous rend triste, par exemple. L'amour rend joyeux. Vous en voulez à quelqu'un ? Le jour où vous le pardonnez, hein, ça vous enlève un poids. On l'a tout fait, cette expérience. Ça rend joyeux. Qu'est-ce que c'est joyeux de pardonner ? Qu'est-ce que c'est joyeux ? Je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est un autre sujet. Hein. Le chrétien qui marche dans l'amour, il y a toujours de nouvelles joies. Pourquoi ? Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Si on réunit l'amour à la joie, on obtient la paix. Ça aussi, il peut pas avoir de... C'est la paix de suite. Ton frère t'a blessé, tu lui as pardonné, c'est la paix. Moi, j'ai vécu un jour une situation où c'était deux personnes, et j'étais le médiateur, et une a demandé pardon à l'autre, et l'autre, spontanément, lui a ri. C'était violent. Hein. C'était super violent. C'est des poids qu'il faut se libérer. Donc, on a essayé après de parler. Et c'était plus de la peine qu'autre chose, en fin de compte. Quelqu'un demande pardon, l'autre lui rit au nez. C'est quand même difficile. Mais il faut continuer à prier et à penser qu'un jour, le pardon interviendra. Parce que c'est la finalité de toute situation. Ça, c'est... Il faut vraiment avoir cette espérance. Voilà. Marcher dans l'amour, c'est le secret de la croissance chrétienne. Mais on doit admettre qu'on ne peut pas produire cet amour. Et c'est là aussi le point fondamental. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est bien gentil. On aimerait bien par nos propres forces. Mais la parole de Dieu, dans Tite, nous rappelle que nous sommes égoïstes, malveillants, ouais, je ne voulais pas vous le relire. C'est l'Esprit de Dieu répandu dans nos cœurs qui nous aide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Il faut le laisser agir, mais il nous permet cela. Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, ce n'est pas une invention. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne, c'est une merveilleuse combinaison de choses anciennes, de choses nouvelles. Le Saint-Esprit s'empare des choses anciennes et les transforme en nouvelles. Hein ? Le Saint-Esprit ne vieillit jamais, heureusement. Et le Saint-Esprit est le seul qui puisse faire quelque chose de neuf, de vivifiant pour chacun de nous aujourd'hui. Laissons-le nous guider, acceptons de nous laisser reprendre, croyons le meilleur, parce que nous vivrons dans la lumière, et c'est formidable de vivre dans cette lumière. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer les autres, hein, franchement. Ne pas les aimer, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Aimer l'autre, c'est toujours être en mouvement. Voilà, donc pour revenir au début, je vais répondre à Lucie. Nous sommes là pour aimer et rendre heureux les autres. Et les autres sont là pour nous aimer et pour nous rendre heureux. C'est interactif. Sous le regard bienveillant du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, la recette est facile. Voilà. Pratiquons cela aujourd'hui, maintenant. Soyons bénis. Soyez bénis. Puis un joyeux Noël plein d'amour. Amen. Merci.